Il a neigé toute la nuit. Eulalie Gaulier se dirige vers la gare Saint-Charles. Elle regrette de n'avoir pas chaussé ses bottines lacées. Le vent à chaque pas s'engouffre sous sa jupe et la pluie glacée lui cingle les mollets. Dans le wagon, l'odeur âcre des vêtements humides couvre les relents de tabac froid et de cochonnaille déjà déballés de leur papier journal sur les genoux des ouvriers. Au sol, les traces boueuses laissées par les sabots. Les employés de la savonnerie, les ouvriers des ateliers de forge d'Aix ne parlent que de ce temps de chien peu cher, quel froid ! Ce n'est pourtant pas la neige des montagnes, mais une chargée d'eau, une timide, qui s'excuserait presque d'oser s'aventurer sur une terre de soleil. Les hommes n'ont pas retiré les chapeaux. Eulalie s'est couverte de châle, et sur ses cheveux relevés en chignon, le feutre de sa coiffe laisse échapper de fines gouttelettes sur ses épaules. Ce matin, la jeune femme s'assoit sur la banquette en bois, son cabas de cuir noir serré contre sa poitrine, cherchant à se réchauffer. Parfois, elle reste debout dans le couloir, à regarder s'éloigner les maisons des faubourgs. Son trajet est rapide, elle descend au premier arrêt, en gare de Sainte-Marthe. Une construction en pierre blanche, une maisonnette soignée dont l'épouse du garde-barrière fleurit les fenêtres dès les beaux jours venus. Une légende rapporte que le village de Sainte-Marthe, sur la colline au nord de la ville, est ainsi nommé en souvenir de la Sainte, sœur de Marie-Madeleine et de Lazare, qui aurait fait étape sur le chemin de la Sainte-Baume et se serait désaltérée à une fontaine d'eau fraîche dont l'emplacement est préservé. Eulalie travaille pour la paroisse depuis bientôt 2 ans. Après le décès de sa vieille bonne, le curé avait chargé le bedeau de lui trouver une remplaçante, et c'est la jeunesse, la gaieté de Eulalie qui était entrée dans le presbytère qui jouxte l'église. Elle tient la maison, cuisine les repas, s'occupe du linge, parfois même elle aide au jardin et prépare avec le bedeau l'église pour les cérémonies. Elle apprécie surtout les baptêmes, nouer les brins de fleurs blanches au début de chaque rangée de bancs de bois sombre, disposer les bouquets et les assiettes de dragées près de l'autel, allumer les cierges, et voir enfin l'enfant dans les bras de sa mère, la fierté du père, les larmes des aïeux. Et la musique, le souffle et la puissance qu'Alcide, le bedeau, offre à ce moment-là derrière son orgue. Eulalie, malgré son jeune âge, aime travailler pour le vieux curé et son bedeau solitaire. Elle n'envie pas les jeunes ouvrières qu'elle croise chaque matin dans le train, dont les conversations animées, les rires, les commérages fusent et se répondent comme lors des joutes nautiques sur le vieux port. Le soir, le voyage du retour est plus calme, la longue journée d'atelier a fait son ouvrage et les ouvrières paraissent plus vieilles. La neige a rendu glissant le chemin qui monte de la gare à l'église. Eulalie marche avec précaution en soulevant le bas de sa jupe détrempée. Malgré l'heure matinale, monsieur le curé doit avoir terminé son déjeuner. Le soir, après avoir disposé le souper sur la table, Eulalie remplit la cafetière d'eau et de café. Il n'aura qu'à allumer la gazinière. Il trempera le pain de la veille. C'est Eulalie qui apporte chaque jour le pain frais acheté rue Saint-Benoît en bas de chez elle avant de prendre le train. Elle pousse la barrière de bois retenue par la neige. Dans le jardinet, les choux et les poireaux sont habillés de blanc. Elle se dirige vers la pantie en tôle pour charger le seau de charbon. Il n'y a plus de lait dans l'écuelle des chats. Soudain, Eulalie entend crier son nom. Alcide, affolé, essoufflé, avance maladroitement sur le sentier enneigé. Il perd son chapeau, ne cherche pas à le ramasser. Eulalie lâche le seau. Elle avance vers lui, surprise et inquiète. Sous sa cape brune, il serre contre lui un paquet informe. Le visage du bedeau est méconnaissable. Il entr'ouvre prudemment le pan de laine et plonge son regard implorant dans les yeux d'Eulalie. Le vieux curé, alerté par les cris, est sorti précipitamment sur le seuil du presbytère. Alcide s'engouffre à l'intérieur et dépose délicatement le corps bleui d'un nouveau-né près du poêle sur le lit de repos encombré de linge et de vêtements. Eulalie saisit la première laine venue, enveloppe le petit corps, le porte dans la chaleur de son cou et souffle doucement sur le duvet brun des cheveux. Elle réclame le flacon d'huile d'olive à côté de la gazinière. Lui revient le souvenir d'une voisine qui en avait enduit le corps de son garçon puis l'avait frictionné vigoureusement après une chute dans les eaux froides de la rivière. Elle repose le nourrisson, une petite fille, paupières closes, et dans des gestes venus du fond des temps, elle caresse l'enfant. Les deux hommes la regardent, éberlués. Le savoir ancestral des femmes, l'instinct, le sens de la vie. Et le petit corps, peu à peu, reprend des couleurs. Le bébé s'agite lentement, ouvre les yeux et soudain se met à pleurer. Le prêtre se signe, murmure une prière. Le bedeau bredouille, puis raconte, par bribes, la découverte sur le parvis de l'église alors qu'il ouvrait grand les portes pour balayer la neige. L'enfant nu, enveloppé d'un morceau de toile de jute, sans aucune indication ni billet autour du cou. Aucun nom ni prénom, pas de lettre, pas d'objet. La petite hurle maintenant. Le curé, son bedeau, la jeune femme se regardent, désemparés mais heureux. Eulalie, un doigt trempé dans du lait que l'enfant tète vigoureusement, le prêtre qui, sous ses ordres, emplit la bassine en zinc servant à la vaisselle de toutes les laines possibles. Alcide envoyait atteler la voiture à cheval. Dans la petite pièce, d'ordinaire si calme, on n'entend plus le tic-tac de l'horloge, ni le poil ronflé. Les chats ont déserté. Les cris d'une petite fille affamée, pleine de vie, ont tout emporté. Alcide conduit prudemment la carriole. La vieille jument n'est guère habituée aux pavés glissants. Eulalie tient fermement sur ses genoux le berceau improvisé. La petite a fini par s'endormir. De nombreuses exploitations agricoles bordent le village de Sainte-Marthe, traversé par la voie ferrée Aix-Marseille. Le chemin, à travers champs, descend en pente douce vers le centre-ville à 8 km environ. La circulation est difficile. Des chalands encombrent la chaussée, rue Sabin-Berthelot. À l'approche du vieux port, Alcide doit tenir fermement les rênes. Les passants traversent en tous sens, cherchant à éviter la neige des trottoirs. La ville, surprise au réveil, a retrouvé son désordre habituel. Le bâtiment de l'Hôtel Dieu, sur la colline du Panier, domine le port. Hôpital principal de la ville, l'imposante bâtisse accueille depuis toujours les miséreux, les indigents, les filles mères et les enfants abandonnés. Agrandie plusieurs fois, pour répondre à l'accroissement de la population, la vaste salle d'entrée abrite des familles à la rue, des estropiés, et toute une cour des miracles, bien loin de ce que promet la façade à colonnes, encadrée de deux escaliers majestueux. Il se dit avec fierté à Marseille que l'impératrice Eugénie en personne est venue inaugurer les travaux de rénovation un 15 novembre, le jour même de son anniversaire, dont tous ont oublié l'année. Eulalie entre seule. Les mosaïques colorées du sol sont souillées par les traces de neige sale. Elle serre contre elle son petit paquet de laine encore endormi. Elle approche ses lèvres des cheveux épars et, sans réfléchir, y dépose des baisers. L'agitation de la salle commune répond à celle de la rue. Des blouses blanches, des religieuses en cornettes, de pauvres gens, Eulalie ne sait à qui s'adresser dans ce tourbillon. Elle est prise du désir furtif de courir vers la sortie quand une main se pose sur son épaule. C'est une forte femme, en cheveux, engoncée dans un épais tablier blanc, que Eulalie prend d'abord pour une poissonnière du port qui lui offre son aide. Garde malade, elle conduit celle qu'elle imagine être une jeune fille mère à travers un dédale de couloirs et d'escaliers. Le matin même, Rose Pasqualini referme la lourde porte cochère de la pension de famille 47 boulevard de la Madeleine où elle loue une chambre meublée au second étage. Elle partage les commodités avec une jeune couturière qui travaille à domicile pour le théâtre de la ville. Parfois, le soir, les deux femmes se retrouvent autour d'un verre de Porto dans la chambre jonchée de tissus, de fils colorés et de rubans soyeux. Il a neigé toute la nuit et Marseille, pétrifiée, tarde à s'éveiller. Lors de son arrivée en ville, quelques années plus tôt, Rose a découvert ce quartier animé de la Madeleine. Des deux côtés des trottoirs, les magasins se succèdent, des ateliers d'ébénisterie, de ferronnerie, partagent les arrière-cours avec les cuisines des nombreux restaurants de la communauté italienne qui s'est regroupée le long de l'artère proche de la Canebière. Ce matin, les volets de bois sont encore clos.